Sur RCF Miss Côte d'Azur, tout de suite nous retrouvons le père Tocoli pour un nouvel épisode de l'émission Culture et Spiritualité. Père Tocoli, bonjour.
Bonjour Alexia.
Alors, cette dernière semaine, notamment ces 17 dernières semaines, vous avez proposé des méditations autour d'un livre qui vous tient à cœur, d'un livre que vous avez écrit, qui se nomme « Petit traité de la compassion ». Alors, après avoir fait partager cet écrit, qu'avez-vous ressenti ?
C'était très émouvant pour moi. Vous savez dans quelles circonstances ce livre est né ? C'est la mort inattendue de ma sœur cadette à 33 ans, qui a provoqué toute cette réflexion, cette formation dans les différents endroits que sont soit la cité universitaire à Paris, soit Montpellier, puis Miami, et puis Londres, où j'ai été me rendre compte et me former à cela. Mais relire tout cela seul, devant un micro, avec une musique derrière, m'a fait revivre non pas la douleur et la peine, mais l'importance que ces événements ont eu sur moi. Et ça me fait comprendre que la mort d'un être cher, c'était la première fois que m'arrivait quelque chose de cette importance. Bien sûr, j'ai vu mourir oncle, tante, mais la petite sœur, pour un grand frère, c'est quelque chose de très important. Et donc, ça n'est pas la tristesse ni la douleur qui sont revenus, mais la prise de conscience de la présence de cette personne, toujours avec moi. Elle est comme vivante, mais vraiment d'une autre façon. Et j'avais le sentiment, en lisant tous ces textes, de le dire avec elle, parce qu'elle les avait inspirés, en fait. Une deuxième chose, peut-être, qui m'est venue au cœur, c'est l'importance que cela a eu pour ma famille aussi. Nous en parlions encore toute la semaine dernière. Ma maman, fatiguée, étant montée à Nice, mes sœurs et moi-même, j'en ai encore deux, nous sommes réunis et nous avons évoqué la présence, la mémoire de Marie-Jeanne, la petite sœur. Et j'ai vu combien ce livre même avait pu aider mes deux sœurs, mes deux autres sœurs et ma mère, non pas à dépasser le problème, mais à nourrir la signification de cet événement dans une âme chrétienne, puisque ce sont des gens chrétiens, mais en même temps, humainement parlant, de pouvoir avoir l'opportunité de dire avec des mots ce qu'on n'a pas toujours la possibilité de dire, parce que la douleur, ou parce qu'on ne sait pas à quoi dire, alors on préfère se taire, et la douleur devient muette, et à ce moment-là, elle peut devenir mauvaise, elle peut se pourrir à l'intérieur. Tandis quand elle est exprimée avec toutes les facettes qu'au cours de ces 17 émissions, je crois, Alexia, ce qui représente une centaine de pages d'un petit livre, tout cela peut aider justement à me ruminer, à grandir dans ce qui arrive.
Alors, moi, j'ai suivi justement ces 17 épisodes les uns après les autres, et je voudrais revenir sur les derniers qui, notamment, il y a des choses qui m'ont essentiellement marqué, c'est que nous devons tous partir un jour ou l'autre, et finalement, à un moment, vous dites, la personne qui va s'en aller se demande qu'est-ce qu'on va retenir de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, alors finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de nous ?
Oui, c'est une question que je me suis posée avant d'écrire ce livre, déjà. De quoi serais-je fier qu'on se souvienne de moi ? Il est évident que là, pour ma part personnelle, il y a tout un travail sur saint Paul que je suis en train de faire, surtout dans les Épîtres aux Corinthiens, la seconde surtout, où il lutte de pied ferme contre ces populations et ces communautés qui sont loin d'être gagnées au Christ, bien qu'elles aient adhéré par le baptême, etc. Il dit lui-même, qu'est-ce qu'on va retenir de moi, qu'est-ce que je suis pour vous, finalement, etc. Et donc, s'il y a un moment limite, c'est bien au moment de la mort. En effet, si nous sommes uniques, si nous sommes voulus de façon personnelle, si Dieu nous a, comme dit Jérémie, appelés par notre nom, et que nous existons devant lui, avec lui en tant que tel, cette personne qui meurt, moi qui parle, qu'est-ce que j'ai pu dire, faire ou mise en place dont on pourra se souvenir, non pas pour ma gloriole, mais pour dire oui, cela a été fait à telle date, à telle époque, et c'est grâce à que ceci, grâce, le mot grâce est très important dans notre langue française, grâce à que ceci a été fait, etc., etc. Oui, nous qui travaillons à la radio, combien de personnes qui nous écoutent là se disent peut-être elles-mêmes dans leur voiture ou chez elles, à l'heure actuelle, c'est vrai, ma vie, qu'est-ce qu'elle a été ? Pas pour en être écrasée, mais pour se rendre compte. Et c'est là que le récit de vie, ma chère Alexia, peut jouer un grand rôle. C'est que l'attention de celui qui accompagne, de celle qui accompagne, peut révéler à la personne qui part qu'elle a, que sa vie valait le coup d'être vécue, qu'elle a fait des choses, ou peut-être humbles, ou dans le sein très étroit d'une famille, d'un couple, d'une relation professionnelle, mais que cela, il y aura 2, 3, 10, 20, 30 personnes qui l'auront retenu et remarqué. Jean-Paul II va nous quitter d'un moment à un autre, comme tout le monde, mais peut-être plus près, puisqu'il est fatigué, malade, qu'il s'accroche à sa crosse et à son trône, et à Dieu et à l'Esprit-Saint, enfin. Mais que va-t-il ? Se pose-t-il la question ? Qu'est-ce qu'on retiendra de Jean-Paul II ? Bien sûr, l'essence 3, 4, 5 ou 6 voyages. Serait-ce que pour les milliers de kilomètres en avion qu'il a pu faire ? Serait-ce extérieur ? C'est important. Mais il doit se poser la question, ai-je correspondu au choix de Dieu, au choix de l'Esprit-Saint ? Est-ce que ce que j'ai dû dire, faire, les non que j'ai dû dire, les oui que j'ai dû chichement, je dois le dire, accorder, est-ce qu'on se souviendra de cela, ou ne retiendra-t-on pas uniquement quelque chose qui, lui, ne lui paraîtra pas aussi important ? Au nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mémorable ?
Vous parliez justement de cette réponse de l'accompagnant. Est-ce que l'accompagnant a aussi un rôle d'aider la personne qui va s'en aller à franchir ce cap de la peur qui est là ? Parce qu'on part vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Vers où partons-nous ? Qu'est-ce qui nous attend ? Puis il y a cette peur. Alors comment est-ce que...
Oui, c'est une question très importante parce que je n'ai jamais été personnellement in articulo mortis, donc l'article de la mort. Je pense que toutes les décisions et toutes les adhésions, toutes les croyances, toutes les fois, elles sont vraies et valables et puis authentiques, j'allais dire tant que nous sommes en bonne santé, quoi. Et puis il arrive un moment où on se demande, parce que justement la mort est là, un cancer, quelque chose de très très grave qui nous en donne justement pour plus longtemps, j'allais dire à vivre. Et voilà, plus rien n'est évident, plus rien n'est aussi... Bien sûr, une certitude est là, ne serait-ce que celle accumulée par 10, 20, 30, 50 ans d'âge et de pratique. Mais il y a un doute fondamental qui est là parce que la peur, comme vous le disiez, Alexia, nous paralyse ou nous fait entrevoir peut-être des possibles auxquels nous n'avons pas pensé ou nous fait entrevoir aucun possible possible. Et là, il y a une grande angoisse. Le rôle, si tant est qu'il puisse y jouer quelque rôle dans cette situation de l'accompagnant, c'est d'être là. On en revient au minimum vital. Il y a ici quelqu'un qui n'abandonne pas l'autre jusqu'au moment de la tranchée, comme je le dis dans l'épilogue de mon livre. Il y a quelqu'un qui soit venu ici jusqu'au bout avec moi et qui me lâchera la main peu à peu quand je m'éloignerai. Cette seule présence-là, parce que la personne sait qui vous êtes, il y a eu ces accompagnements, vous êtes prêtre, vous êtes religieux, religieuse, vous êtes chrétien, vous êtes engagé, vous croyez. Cette main qui tient, c'est tout ça qu'il tient, à lui d'en faire ce qu'il doit en faire. Et c'est là que la personne qui accompagne se pose la question, quand je serai là, quelle main me tiendra ?
Mais alors, nous allons partir, vers où et qui nous attend ?
Oui, c'est l'acte de foi. C'est pour ça que l'acte de foi, il tient à qui, à quoi ? Parce que, je répète, tant que nous ne sommes pas devant l'événement, vous savez, c'est comme quand on prend la décision de devenir prêtre ou de dire oui au mariage. Tant que le moment n'est pas venu, bon, on s'est posé la question, on a réfléchi, on a pris la meilleure des... Puis le moment est là, maintenant. Là, dans 10 minutes, 9 minutes, 8 minutes, 1 minute, tiens, la question va venir, voulez-vous prendre comme légitime époux, légitime épouse, il faut que je réponde oui, sinon je me casse. Hein. ou bien que ceux qui veulent de nain, avancez, atsum, vous faites le pas et vous allongez par terre. C'est fait. Mais la question demeure, est-ce que c'est ça qu'il fallait que je fasse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'attend et qui m'attend? L'autre pour le mariage, qui est-il en fait? L'autre Dieu à qui je me donne, Jésus-Christ dont je veux faire mon frère, l'Esprit dont je veux m'imprégner et me laisser imprégner par lui, c'est quoi? C'est du baratin ou c'est vrai?
Alors, après une telle expérience, finalement, c'est un petit livre d'une centaine de pages. À qui peut-il s'adresser expressément?
Ce qui m'a le plus frappé dans les échos que j'ai eus, c'est que des personnes, dont le papa, la maman, un ami, quelqu'un, devaient partir pour des raisons de vieillesse ou des raisons de maladie, et dans un laps de temps très court, ne savaient pas comment engager une conversation. Et le livre leur a servi de go-between, de relais. C'est-à-dire qu'un chapitre, un paragraphe était lu par l'un ou par l'autre. En général, ils avaient acheté deux livres, c'est pas pour faire de la promotion. Et donc, ils se lisaient chacun une page. Et lors de la rencontre, quand on rendait visite, l'un et l'autre disaient, tu as lu ça, page tant, etc. C'est beau ou bien, je comprends pas, ou qu'est-ce que tu en penses? Tu vis ça comme ça? Et par le truchement de cela, ça c'est ce qui m'a le plus... Alors qui... Je pense que ça peut intéresser tout le monde qui s'intéresse à cette situation, mais d'abord dans un cas précis, donc, est utilitaire cela. La deuxième, c'est que c'est un véritable accompagnement personnel. Il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un à accompagner chez soi ou à l'hôpital pour pouvoir lire ce livre. Il est une méditation sur soi, suivant le thème qu'en tout homme qui meurt, c'est de moi qu'il s'agit.
Alors, rapidement, est-ce que vous avez eu des échos, finalement, de cette méditation que vous avez proposée?
On m'a dit que ça permettait de faire un break vers 6h15, je ne sais plus à quelle heure ça passe, et que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de traiter ce thème de la mort et de la mort des autres, et que c'était reconnu, ça a été reconnu pendant ces 17 semaines, les échos que j'ai pu avoir, comme étant un heureux événement que cela soit possible, et avec l'anonymat que représente à la fois la personne qui n'est pas là, c'est la radio, et la voiture. Le fait d'être dans la voiture, c'est chez soi, c'est un cabinet dans lequel on est sinon enfermé, puisque c'est ouvert de tous les côtés, on voit partout, mais on est assez isolé comme dans une retraite. Je n'ai pas entendu d'écho négatif.
Alors finalement, pour toutes les personnes qui seraient intéressées de se procurer cet ouvrage que vous avez écrit, je redonne le titre, « Petit traité de la compassion », alors, comment peut-on faire ça?
Bien, en ville, si vous êtes en ville, vous allez à la Procure, par exemple, ou si vous êtes plus vers le lycée Masséna, à la librairie Masséna, au début de la rue Joffredo. Je suis sûr qu'ils sont là, puisque je les connais personnellement. On peut toujours, naturellement, se l'acheter chez moi. Mon numéro de téléphone, pour l'avoir, le 06 10 36 68 64. Je le vends aussi à toutes les conférences que je donne, un peu partout, ou colloques, ou séminaires, et j'en donne pas mal. Ce qui m'a le plus, je peux dire encore un mot, Alexia, c'est que ce qui m'a le plus touché, et puis même frappé, c'est qu'entre le mois de juin et le mois de décembre, maintenant, qui arrive, j'étais sollicité 4 fois pour donner des sessions de 3 fois 2 heures chacune. Donc, si nous les comptons... ça fait 4 fois 6, plus de 4, qu'est-ce que je raconte? Si, 4 fois 6, plus de 24 heures à 4 groupes différents, de plus d'une 20aine de personnes. 2 au mois de juin, en ville, à Nice, et 2 qui seront donnés, la première a été donnée au mois de septembre, à l'hôpital de La Fontaine, et la prochaine sera donnée aussi à l'hôpital de La Fontaine. Si l'un ou l'autre devait être intéressé par cette session, c'est le lundi de midi à 14h. Appelez donc la responsable de l'accompagnement en hôpital, Madame Frédérique Pillet, P-I-2-L-E-T, au 06 64 83 82 04, je répète, 06 64 83 82 04. Et si, un dernier mot, vous avez envie de réagir par rapport à ce livre et de m'en parler ou de me faire signe, sachez que on peut toujours me téléphoner, donc à ce téléphone, 06 10 36 68 64, m'écrire sur un mail, mon titre c'est T Vincent Pa, T-V-I-N-C-E-N-T-P-A@AOL.com, Et voilà, je vous remercie d'avoir été si attentif. Au revoir. Au revoir, Alexa.
Merci à vous, en tout cas, Vincent Poltokoli, de nous avoir fait partager toutes ces méditations autour d'un thème qui n'est pas toujours facile à aborder. C'était Culture et Spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. À très bientôt.